Actes. On l'appelle le livre des Actes des apôtres parce que on voit un petit peu les apôtres, on voit surtout Pierre et Paul. En fait, les autres apôtres, on les voit pas tant que ça. Ça couvre au niveau de l'histoire environ 30 ans, de la mort de Jésus vers 30 jusqu'à peut-être 62, 63 après Jésus. Avant la mort de Paul, donc là vous avez vu à Rome, c'est écrit par Luc, celui qui a écrit l'évangile, et Luc participe à certaines des aventures, il voyage parfois avec Paul dans l'histoire, et on voit en fait quand il parle, il y a des moments où il dit, bon ben Paul est allé faire ci, ça, voyager, et... Parfois, il dit, nous sommes allés ici, nous sommes montés dans le bateau, et on voit dans le, qu'il parle vraiment de, à la première personne du pluriel, il était là, il faisait les choses avec. Et, le livre était écrit avec l'évangile, il a écrit les deux en même temps, et on le voit par ce qu'il écrit, en fait. Donc, au tout début du livre, il dit, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, etc., etc. Donc il dit, voilà la suite, quoi. Et on pense que Luc a peut-être, dans le début de l'évangile de Luc, il dit qu'il a été faire des recherches. Il est allé demander, poser des questions aux témoins, les gens qui avaient vu Jésus, qu'il a voulu tout faire pour bien faire le récit. Et on pense qu'en fait, Paul, il se retrouve en prison à Jérusalem avant d'être ramené à Rome. Et on pense que peut-être pendant que Paul est en prison à Jérusalem, pendant 2 ans, que Luc a peut-être pris le temps d'aller faire un tour pour aller faire ses enquêtes, pour écrire l'évangile et ce livre. Et il écrit à un certain personnage qui s'appelle Théophile. On ne sait pas qui c'est, mais... on pense que c'était peut-être une sorte de défense. Peut-être que quand il était à Rome, en procès, où il va passer devant l'empereur, il appelle au jugement de César avant d'être mis à mort. Peut-être que ces deux livres étaient un peu une explication de la foi chrétienne. Il y avait beaucoup de rumeurs. Il y avait des gens qui disaient, c'est quoi ces chrétiens? Il y avait des rumeurs très bizarres à Rome, notamment au début. Ils disaient que c'était des cannibales, des trucs bizarres, tout et n'importe quoi. Et avec ces deux livres, l'évangile de Luc et Actes des Apôtres, on a quelque chose de très clair où on a la vie de Jésus et les 30 premières années de l'Église, comment ça s'est développé, comment ça a évolué, comment ça a grandi, jusqu'à atteindre Rome avec Paul. Et à cause de cet objectif de Luc, ça donne vraiment un caractère spécial à ce livre des Actes, parce qu'en fait, on a la vie de Jésus... On a après les épîtres, les lettres qu'ils s'écrivaient entre eux, mais entre les premières épîtres de Paul et de Jean, des autres, tout ce qu'on va voir après dans le Nouveau Testament, il y a peut-être 15-20 ans de trou au niveau des dates. Et donc si on n'avait pas le livre des Actes, on ne saurait pas, il y a Jésus qui est mort, et puis après on se retrouve avec des lettres, mais on n'aurait pas l'explication de l'Église, comment elle a commencé. Et donc c'est vraiment un livre important pour la foi chrétienne qui explique la naissance de l'Église. Alors c'est pas une histoire complète, c'est Luc qui fait des choix, il choisit certains événements pour illustrer un peu son idée et ce qu'il veut faire, ce qu'il veut présenter, comment l'Évangile s'est répandu dans le monde et comment l'Église a grandi. On voit que la mort et la résurrection de Jésus sont des points centraux dans le message, parce que on a souvent des sermons qui sont écrits, en fait. On voit, il va raconter, bon, ben, Pierre s'est levé, et puis il a prêché, et on a le sermon, et dans le sermon, tous les sermons qu'on voit, tous les enseignements, c'est toujours sur Jésus est mort et ressuscité, et on peut être sauvé grâce à lui, et c'est vraiment central. C'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Le texte montre aussi une certaine presque comme une inertie. Ça commence et ça ne peut pas être arrêté. Le livre, quand on le divise, on peut presque le diviser avec des cycles où il y a quelque chose qui s'oppose à l'Église et à l'Évangile. Et puis on voit comment par l'Esprit Saint et par la direction, les apôtres ou les personnes de l'Église vont trouver une solution et vont faire quelque chose. Et puis l'Évangile va continuer. Et on a souvent un verset, on peut regarder, il y a le verset, par exemple, au chapitre 6, verset 7, qui dit « La parole de Dieu se propageait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule obéissait à la foi. » Et souvent dans le livre, on a ces genres de versets où il y a eu quelque chose et puis ils disent « Bon ben, il y avait ce problème, ça a été résolu et après l'Église allait bien et ça se développait, ça se répandait et on a un sentiment de quelque chose, la diffusion de l'Évangile et la croissance de l'Église qui sont un petit peu inarrêtables en quelque sorte. C'est inéluctable et même dans certaines situations, on voit que l'ennemi, Satan, qui veut persécuter l'Église, par exemple. Au début, l'Église est à Jérusalem. Et on voit que les Juifs veulent tuer les chrétiens, les mettre en prison et tout. Et donc, ça oblige les chrétiens à fuir Jérusalem. Mais en fuyant Jérusalem, on s'aperçoit qu'ils vont dans d'autres villes où ils font d'autres chrétiens. Et donc, ça se répand. Alors qu'à la base, l'idée, c'était de les tuer à Jérusalem. Et en fait, ça cause l'explosion, en quelque sorte. Donc cette croissance, c'est un peu le thème sous-jacent. Alors pour le diviser, on peut le diviser de plusieurs manières. La première, et celle qui ressort le plus souvent, c'est dans le livre, dans le premier chapitre, Jésus qui parle aux disciples avant de monter au ciel. Il dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous ». Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, le livre, on peut dire qu'il est avec ce format-là. Ça commence à Jérusalem, après ça va en Judée, Samarie, après ça va plus loin, et après ça va jusqu'aux extrémités de la terre, et jusqu'à Rome, finalement, avec Paul. C'était le monde connu de l'époque, un peu, c'était les limites de ce qu'il savait. On peut aussi le diviser en deux grandes parties avec Pierre et Paul. Le livre, c'est un peu une transition entre une foi qui est très juive, qui est très liée à l'Ancien Testament, qui commence à Jérusalem, où la plupart des chrétiens sont juifs. Et petit à petit, il y a une transition vers les païens. C'est le centre se déplace de Jérusalem vers Antioche, qui était en Syrie moderne et qui va devenir un peu le point central de l'Église. Il y a notamment, on dit que c'est là que les chrétiens ont été appelés chrétiens pour la première fois. Et donc on a cette transition entre Pierre, qui est un peu plus un apôtre qui est centré sur les Juifs et qui va être beaucoup plus à Jérusalem et sur la foi juive. Et on a cette transition vers Paul qui, lui, est amené beaucoup à voyager, à annoncer l'Évangile à tous les non-juifs. Et on va voir aussi un peu une diminution de l'influence des Juifs dans l'Église parce qu'ils rejettent le message, en fait, de Jésus. On voit que Paul et Pierre et tous font toujours l'effort d'annoncer l'Évangile aux Juifs, mais qu'à chaque fois, ils le rejettent. Et petit à petit, les Juifs sont un petit peu laissés de côté et c'est surtout les païens qui sont touchés. Et donc cette transition aussi permet de faire la division du livre. On peut voir aussi une division avec cette idée religieuse où il y a une première période très judaïque à Jérusalem avec les premiers 7 chapitres et après une période de transition et après l'expansion chez les païens avec les voyages de Paul. Moi, j'aime bien alors cette première division avec l'idée de Jérusalem, la Judée, la Samarie, et puis après toute la terre. Alors, si on regarde un peu plus en détail, on a le premier chapitre. On commence avec les dernières paroles de Jésus qui leur dit quoi faire. d'aller à Jérusalem et d'attendre le Saint-Esprit qu'il avait promis à d'autres moments. Ensuite, on a les 8 premiers chapitres où on voit le témoignage à Jérusalem. Il y a la naissance de l'Église à la Pentecôte, qu'on va regarder juste après. On voit les premières oppositions, les problèmes internes, différents problèmes qui doivent être résolus. Et on voit le premier martyr avec Étienne qui va être lapidé. Qui est le premier martyr de l'Église, de l'histoire de l'Église. Et après l'histoire d'Étienne, on voit que la persécution augmente contre les chrétiens, et donc on voit cette explosion un peu qui commence. Et ils vont aller dans les premières régions autour, donc la Judée, la Samarie et les contrées un peu autour de Jérusalem. On a on a un petit peu de détails sur le ministère de Philippe chez les Samaritains. Il y a un petit épisode où il y a tout un village qui vient à Jésus suite à l'annonce de l'évangile. On a aussi l'histoire d'un eunuque éthiopien qui est en voyage et qui lit le livre d'Ésaïe et qui demande à être, il comprend pas ce qui se passe, et donc Philippe va lui expliquer et il va se convertir. C'est intéressant de noter que l'Éthiopie, on pense que peut-être que l'arche de l'Alliance qui a disparu a peut-être été amenée en Égypte et après en Éthiopie. Et on pense que cet eunuque, en rentrant, a peut-être commencé. Il y a une église qui est parmi les plus anciennes églises au monde, tradition chrétienne, en Éthiopie. Et il y a notamment un groupe de personnes qui se disent être des prêtres lévites en Éthiopie et qui disent qu'ils ont l'arche de l'Alliance, mais qui veulent pas le montrer, qui veulent
un reportage.
Oui, avec les églises creusées dans la pierre, etc. Et donc on se dit que c'est peut-être lié à cet eunuque qui s'est converti et qui est rentré après. Alors on ne sait pas exactement, mais c'est intéressant. Et après, au chapitre 9, on a la conversion de Saül, qui devient après Paul. Avec cette vision, il va pour persécuter des chrétiens et il a cette flash de lumière et Jésus qui lui parle par une voix et il se convertit. Ensuite, on voit le ministère de Pierre, notamment Pierre va avoir une vision d'animaux qui étaient considérés comme impurs, qu'il va voir sur un nuage avec Dieu qui lui dit de manger, et lui dit non, je vais pas manger. Et puis après, quelqu'un arrive qui est pas juif et dit Dieu m'a dit de venir pour que tu m'annonces l'évangile. Et donc Pierre dit si c'est Dieu qui t'a envoyé, je vais pas m'opposer. Ce moment-là est central où Pierre s'aperçoit en fait que l'évangile est pour... Dieu a prévu que ce soit pour tout le monde et pas seulement les juifs. Donc on a ça dans les chapitres 9 et puis jusqu'à 11 environ. Alors après, ça fait un peu des vagues à Jérusalem parmi les juifs. Il y a des débats un peu sur quoi faire. Et on voit que après il y a un personnage Barnabas qui va être important... qui commence l'église à Antioche. Et puis il y a des persécutions encore à Jérusalem. Et en fait, après, Barnabas va aller chercher Paul et ils vont d'abord à Antioche faire des choses et après ils vont partir en voyage. Et donc quasiment la moitié du livre, c'est les voyages de Paul. Il y a, on peut dire, des chapitres 13 à 28, donc une grosse partie. On a le premier voyage de missionnaire de Paul et Barnabas. Après, il y a une conférence à Jérusalem où ils se réunissent justement pour un peu se décider sur des questions par rapport à la foi juive, en fait. Il y avait des personnes dans l'église qui disaient... Pour être chrétien, il faut d'abord devenir juif, se faire circoncire, obéir à toute la loi juive de l'Ancien Testament, tout faire comme avant. Et après, à ce moment-là, on peut être chrétien. Et donc, ils ont une conférence où ils se réunissent et puis ils disent, par exemple, il y a des hommes qui ont reçu le Saint-Esprit alors qu'ils étaient pas, ils avaient rien fait de tout ça. Donc, c'est que Dieu les accepte. Donc ils ont toute une discussion où ils choisissent, en fait, de dire, on n'a plus besoin de toutes ces choses de la foi juive. pas pour dire qu'elles ne valent plus rien, mais que pour être sauvé, il n'y a pas besoin de ces choses-là. Donc c'est un moment important dans la vie de l'Église. Et ensuite, on a le deuxième voyage de Paul, puis le troisième. Et puis, lors du troisième voyage missionnaire, il parcourt les églises qui sont un peu de partout dans la Turquie actuelle, en Grèce, et il va chercher de l'argent de la part des églises pour aider les chrétiens à Jérusalem qui, eux, sont très pauvres et n'ont plus rien parce qu'ils sont persécutés. Et quand il arrive à Jérusalem, les Juifs qui le poursuivaient déjà un peu de partout et qui étaient très énervés contre lui vont l'attaquer, il va être mis en prison. Et là commence toute une période où il est à Jérusalem, cette période, je disais, de 2 ans, où il va être en prison devant les différents gouverneurs romains, les différents personnages. Et puis à la fin, il va dire je vais être jugé par César. Et comme c'était un citoyen romain, il avait le droit, dans certaines situations, de dire je conteste le jugement, je veux comparaître devant César, ce qui faisait partie de la loi romaine. Et donc à ce moment-là, ils le prennent en tant que prisonnier et vont l'amener. Donc c'est un peu le quatrième voyage de Paul, mais c'est un peu différent parce qu'il est en prison et il est emprisonné. Alors on voit le voyage aussi et comment ça se passe. Mais on arrive et Paul est à Rome. Et ça finit un peu brusquement. Ça s'arrête. On n'a pas la mort de Paul. On voit juste qu'il est à Rome. Et d'une certaine manière, l'idée, c'est que l'œuvre de Dieu par l'Esprit Saint par l'Église n'est pas finie. Et donc, d'une certaine manière, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas vraiment de conclusion. Et c'est aussi l'idée que Luc a écrit à ce moment-là, avant la défense pour Paul et pour expliquer la foi chrétienne. Donc ça, c'est un peu le survol. On va regarder quelques points importants. Le premier, c'est l'Esprit Saint. C'est la troisième personne de la Trinité. Certains disent que le livre des Actes, on devrait plutôt l'appeler le livre des Actes du Saint-Esprit. Quand on le lit, on passe de manière assez... on lit, il y a l'Esprit Saint, Mais si on s'arrête et vraiment on surligne à chaque fois qu'il y a le Saint-Esprit qui dit quelque chose, qui fait quelque chose, qui dirige, qui... En fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'interventions de l'Esprit Saint et c'est vraiment quelque chose de clé dans l'histoire. Et l'idée, c'est que c'est aussi quelque chose de clé pour l'Église et pour les croyants de nos jours. Jésus, lui, avait promis l'Esprit Saint aux disciples. Il y a dans Luc 24, 49, par exemple, il dit « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et dans Jean 14 et dans Jean 16, on le voit aussi, où il dit « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il dit aussi même aux apôtres, il leur dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce que vous aurez l'Esprit Saint après. » Et c'est un peu, il dit, c'est ce qui est surprenant, on se dirait « C'est mieux s'il y a Jésus avec eux. » Et on voit dans le début de l'Église, et par rapport à ce qu'on a vu à la fin des Évangiles, que c'est vraiment des hommes qui sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. Quand on voit la fin, quand Jésus est crucifié, il le renie, ils vont se cacher, ils retournent à leurs anciens jobs, ils veulent plus, ils laissent tomber. Jésus revient, leur parle, ils vont à Jérusalem, ils attendent la puissance du Saint-Esprit, et puis là on voit Pierre qui se lève, qui parle devant 3000 hommes, on voit les miracles qu'ils font, la manière dont ils sont... Dans la Bible, on n'a pas tous les récits, mais dans l'histoire de l'Église, dans ce qu'on sait des autres apôtres, ils sont tous morts, sauf Jean, en martyr. Certains crucifiés, Pierre crucifié à l'envers, etc., etc. Et donc on voit que ces hommes qui finalement, il s'est passé quelque chose. Ils étaient, c'était des hommes peureux, qui n'avaient pas d'éducation, qui n'avaient pas de force de conviction, qui suivaient, mais qui n'étaient pas très intelligents, pas très doués, quand on voit. Et puis après, ils arrivent à. Parce que quand on regarde aussi, on s'aperçoit qu'ils affectent tout le monde connu de l'époque en 30 ans. Personne ne savait qui était Jésus, et en 30 ans, de Jérusalem à Rome, en passant par de partout, ils ont parlé de Jésus de partout. C'est vraiment. Il y a quelque chose là, même et surtout à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait se dire, ben, tu t'envoies un message sur Facebook et puis tout le monde le voit, mais à l'époque, il fallait aller à pied, quoi. tu vois les voyages de Paul qu'il fait quand il va à pied, ces voyages, c'était 2-3 ans, c'était des voyages. Et ils étaient vraiment. Paul, il y a même une histoire où il se fait lapider. Il le laisse en dehors du village, il pense qu'il est mort. Là, il revient à lui, il se relève, il re-rentre dans le village et il recommence à prêcher. Tu dis, c'est. Alors, soit il est complètement fêlé, soit il y a quelque chose de vraiment une force qui est derrière. Et la Bible nous dit que c'est l'Esprit Saint, c'est la puissance de l'Esprit Saint qui les transforme et qui les rend aussi confiants. Aussi le fait d'avoir vu ce qui était arrivé à Jésus. On peut réfléchir aussi, ce que je disais, que Jésus disait, il vaut mieux que l'Esprit Saint soit là que moi, et se dire aussi que l'Esprit Saint, d'une certaine manière, a plus de liberté que Jésus. Jésus était limité à un endroit. Jésus était à un endroit physique, et il prêchait au gars là, alors il pouvait faire des miracles, il pouvait tout faire. Mais l'Esprit Saint, on se dit, en même temps, il y a l'Église en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, et partout en même temps, il coordonne, il fait des choses, il peut agir de partout en même temps. Et donc, c'est bon, si vous lisez le livre des Actes, de vous dire, je vais noter, faire attention à l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se passe? Et ça donne aussi un peu une, pour les gens qui veulent faire des études un peu plus théologiques, systématiques, dire bon, ben, l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son rôle, etc. On peut regarder dans les Actes et construire un peu plus une théorie pour comprendre qui est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint donne naissance à l'Église le jour de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, c'était une fête qui arrivait 50 jours après Pâques. Et tous les Juifs se réunissaient à Jérusalem. Et donc là aussi, on voit que Dieu ne fait pas les choses mal. Il attend qu'il y ait plein de Juifs un peu partout qui viennent, qui soient à Jérusalem. Ils reçoivent l'Évangile et après ils vont repartir chez eux. Et l'Évangile va se diffuser comme ça aussi. Et donc ils attendent, alors Jésus leur avait dit, attendez à Jérusalem de recevoir cette puissance. Donc ils sont là, ils attendent, ils prient. Et le jour de la Pentecôte, donc dans le chapitre 2 du livre des Actes, on voit qu'ils sont en train de prier, puis il y a l'Esprit Saint qui vient sur eux avec cette puissance. Le texte nous dit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et alors c'est dans le Nouveau Testament, on le voit que c'est un des dons de l'Esprit Saint de pouvoir faire parler en d'autres langues. J'ai lu une note que je trouvais très intéressante. C'est un peu comme si Dieu inverse presque la malédiction de Babel, de tout début de la Genèse, où Dieu avait séparé les hommes, il les avait divisés en leur donnant différentes langues. Et là, on a l'impression qu'il a fait quelque chose d'uni, malgré ces différentes langues, et en permettant que les disciples parlent tous à tous ces hommes avec toutes les langues, mais qu'ils arrivent quand même à avoir un corps d'église qui finalement est uni malgré cette séparation des langues. Ça m'a parlé.
Ça, c'est intéressant.
Et on a alors ces. Il y a plein de gens qui sont présents pour cette fête à Jérusalem et on voit. y a tous ces juifs qui sont de partout dans le monde, qui entendent parler ces langues et ils disent, mais comment ça se fait que ces gens parlent, on comprend ce qu'ils nous disent et ils parlent de Dieu et qu'est-ce qui se passe? Et il y en a qui disent qu'ils sont ivres. Et là, Pierre se lève et va enseigner, va expliquer ce que c'est. Et il fait référence à une prophétie dans le livre de Joël, un des petits prophètes dans l'Ancien Testament. Et il va expliquer, il va donner tout un sermon. Et après son sermon, en parlant de Jésus, il y a 3000 personnes qui se convertissent et c'est le début de l'Église. Et on voit, c'est un peu la base pour le modèle d'Église. Dans le chapitre 2, verset 42, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et pour nous, c'est un peu la base des activités de l'Église. C'est l'enseignement des apôtres, c'est la Bible, d'étudier ce que dit la Bible. La communion fraternelle, c'est être ensemble. La fraction du pain, c'est la communion, pour se rappeler le sacrifice de Jésus, et les prières, le fait de prier, et que c'est ça les activités en quelque sorte de base. Et voilà, c'est on se concentre là-dessus. Alors, comme je vous disais, les persécutions vont forcer l'Église à se répandre. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a l'impression, quand on lit le livre des Actes, que Jésus avait dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et quand on voit ce qui se passe après la Pentecôte, on a l'impression que tous les gens qui sont venus à Jésus, ils se disent « On est bien là, on va vivre ensemble. » Et on a l'impression qu'ils désobéissent et qu'ils restent ensemble à Jérusalem. Et alors là, on voit que là commence la persécution et ça va les forcer presque à partir et à annoncer l'évangile ailleurs. Et là, donc, on a ce passage avec Pierre. On peut faire toute une étude comparative entre Pierre et Paul. Il y a beaucoup de choses similaires entre les deux personnages. Comme je vous disais, Pierre, c'est plutôt pour les Juifs et Paul, ça va être plutôt pour les païens. Et donc on a une première partie avec Pierre qui a cette vision où il voit il est en train de prier, puis il a une vision de quelque chose qui descend avec des animaux qui pour les Juifs n'étaient pas purs, et Dieu dit vas-y tue et mange, prépare un truc à manger, et lui il dit non c'est impur, je vais pas manger ça, et ça arrive 3 fois, et puis Pierre il comprend pas trop, il sait pas trop de quoi il s'agit, et de l'autre côté Dieu avait donné une vision à un certain Corneille en lui disant va chercher Pierre et il va t'annoncer quelque chose et écoute bien ce qu'il aura à dire. Et donc après sa vision, Pierre il se dit qu'est-ce qui se passe, et puis là arrive un non-juif, et normalement les juifs par exemple ne devaient même pas entrer dans les maisons des non-juifs, ils devaient être séparés, c'était impur, il y avait vraiment une séparation. Et donc Pierre il dit c'est peut-être pour ça que j'ai compris ça, et Dieu me dit que de pas refuser les non-juifs en disant qu'ils sont impurs d'après la vieille loi juive. Et donc là, il va annoncer l'évangile, et on voit que Corneille et toute sa famille, les autres gens qui sont là, se convertissent, que l'Esprit Saint vient sur eux, qu'ils ont un peu, ils vont parler en langue aussi, ils ont la même expérience que les apôtres, les disciples à la Pentecôte. Et donc Pierre, il dit, visiblement, c'est Dieu qui valide, donc je ne vais pas m'opposer. Et c'est un épisode important parce que c'est le moment où l'évangile vraiment commence à partir sur toute la terre. Donc il y a cette conférence de Jérusalem dont je vous parlais qui va un peu entériner ça avec cette ouverture pour les non-juifs. Ce problème de la loi juive va rester. Ça va être un problème on voit dans les lettres de Paul après, que Paul, il est obligé de souvent dire non, on n'est plus obligé de revenir à la loi, on est passé, c'est par la foi. Et on voit même, dans Galates, il y a un épisode assez intéressant où Paul reprend Pierre. Et il dit que Pierre était hypocrite et qu'il faisait semblant d'être juif avec les juifs, et puis après il allait chez les non-juifs. Et Paul, il le reprend et dit, ce que tu fais n'est pas bien, tu es hypocrite, là, soit on doit respecter la vieille loi juive, soit on ne doit plus le faire. Et donc c'est un peu intéressant, et dans toute la suite des épîtres, on voit que Paul souvent est obligé d'en reparler, de cette histoire, de toutes les lois juives qui restreignaient la vie beaucoup, et Paul qui dit non, maintenant on est libre, alors si vraiment ça gêne quelqu'un, bon ben soyez gentil avec cette personne, mais c'est plus obligatoire. Et ça, comme je disais, ça passe de cette influence juive qui était un peu dominante, où il voulait un peu rester en contrôle, et puis petit à petit, ça passe plutôt vers les païens qui, eux, ben, ils n'ont pas ce problème-là de la loi, de l'histoire, de leur foi. Et donc après, on a la conversion de Paul. Et Paul venait d'une ville qui s'appelle Tars, qui est un peu, quand vous regardez la Méditerranée, c'est un peu le... Il y a la partie un peu comme ça, avec la Turquie là, et puis Israël ici. Et lui, c'est un peu dans le coin, quoi. C'est un peu la limite. Aujourd'hui, on voit que la Syrie est un peu là, avec la Turquie, et c'est juste sur la mer. Et c'était quelqu'un de très bien éduqué, qui avait reçu les meilleures formations, qui connaissait le grec, l'hébreu, qui connaissait les philosophes, qui avait été élevé avec le meilleur rabbin de l'époque, qui s'appelait Gamaliel. Il était présent, on voit qu'il faisait partie du Sanhédrin, donc un peu l'élite politique de Jérusalem, des Juifs. On voit que quand il y a le premier martyr, Étienne, lui, il était présent et il tenait en fait les vêtements, il gardait les vêtements des autres pendant qu'il lapidait Étienne, un peu pour dire, il validait quoi. Allez-y les gars, je garde vos affaires. Et quand il va venir à Jésus, en fait, il est en train d'aller à Damas pour mettre en prison des chrétiens. Et Jésus, là, va l'interrompre et changer complètement le cours de sa vie. Et c'est intéressant parce que dans l'histoire, nous, on le voit encore une fois très, très... On lit et puis ça vient très vite. Et en fait, d'après ce qu'il nous dit dans ses évangiles et de ce qu'on voit dans les actes, en fait, il va partir après être converti. Il va partir 3 ans en Arabie, on ne sait pas où vraiment, et on ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais Dieu va lui montrer des choses et va le former en quelque sorte. Et après, il va aller presque 10 ans. À Tars, et il est là à Tars, on ne sait pas non plus ce qu'il fait à Tars, on n'a pas de détails. Et en fait, c'est un certain Barnabas qui va voyager avec lui, qui à un moment donné va aller le chercher, va lui dire, hey, tu devrais venir maintenant à Antioche, on va commencer une église. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment presque 15 ans de sa vie où on ne sait pas trop, il s'est converti, mais il ne se passe rien. Mais en fait, on voit que dans la Bible, c'est souvent un thème, les hommes que Dieu va utiliser, souvent ils ont des longues périodes de préparation. Nous, on aime bien, bon ben, ça y est, vas-y, Dieu, utilise-moi maintenant. Mais en fait, Dieu il veut agir dans le monde, il veut sauver des gens, mais il veut aussi... Il est concerné par nous, par comment nos caractères, par comment nous sommes, par nos vies. Et on voit que souvent, il va plutôt se concentrer sur la personne. Donc on se dit que Paul, pendant 15 ans, il l'a formé. Dieu lui le préparait. Puis quand il est prêt, là, il va pouvoir agir. Et en fait, dans la Bible, on le voit souvent. On voit même d'une certaine manière dans la vie de Jésus, qui est enfant, qui grandit, et qui avant, pendant presque 30 ans, qui vit normalement, sans rien, sans faire de grand-chose. On voit dans l'Ancien Testament, Moïse, par exemple, qui va partir dans le désert 40 ans avant de faire quelque chose. On voit Josué, avec des longues périodes où il n'y a pas de grands événements, de grandes actions. Et ça peut être un encouragement pour nous, parfois, quand on a l'impression que nos vies stagne un peu ou avance pas, de me dire bah peut-être que Dieu veut me former moi plutôt que de faire des choses que j'aimerais ou peut-être des choses grandioses. Il veut surtout, il est intéressé par moi, par ce que je suis, par ma relation avec lui. Et alors une fois qu'il revient, donc il commence à Antioche avec Barnabas, et puis ensuite il va faire ses voyages. Et ces voyages, alors c'est une grande partie, comme je disais, du livre. Dans cette version de la Bible, en fait, on a les voyages. Si vous voulez regarder juste derrière là, à la fin, dans la plupart des Bibles, ils mettent une carte avec
les trajets.
Voilà, les petites trajectoires avec où il est allé. Alors il y a les pointillés bleus. On voit qu'il part d'Antioche là, qui est au nord de Jérusalem, là. Vous voyez où c'est ? Ouais. Et donc là, il va faire ce premier voyage où il va à Chypre, et après il passe en Turquie, puis il fait un petit aller-retour, et puis il revient à Antioche. Donc ça, c'est son premier voyage. Après son deuxième voyage, on voit qu'il part de Jérusalem, là. Il va remonter au nord par la terre, et passer en Turquie, et faire tout un voyage en passant par la Macédoine, la Grèce là-bas avec Athènes et Corinthe et tout, puis va revenir finalement à Jérusalem. Et après son troisième voyage, encore une fois là, il part d'Antioche et il va monter encore en Turquie et faire toutes les églises là-haut et passer encore une fois en Grèce et tout ça. Et puis on voit le dernier, alors il revient à Jérusalem, et après on voit le dernier voyage en vert, où il part de Jérusalem, et ça c'est quand il voyage en tant que prisonnier en bateau, et il monte, et puis pour finalement arriver à Rome. Donc là, ça nous permet de bien voir, c'est le centre du monde de l'époque, hein, avec la Grèce, avec Byzance, avec Rome qui a l'influence dans le monde de cette époque-là. Et on voit en fait tous les noms des églises dont il est question, notamment dans les épîtres. Alors il y a toutes les églises, il y a Corinthe, les 1 et 2 Corinthiens, il y a Thessalonique, c'est 1 et 2 Thessaloniciens, il y a Philippe pour Philippiens. La Galatie, on voit une région en fait un peu dans le nord de la Turquie, donc c'est le livre de Galates. Il y a la ville d'Éphèse qui est sur la côte turque en face de la Grèce, etc., etc. Donc c'est tous ces noms qu'on retrouve après, c'est les noms des villes où il y avait les églises. Et quand on regarde un peu, alors il y a plein de petits détails, de choses sur qui il rencontre, comment ça se passe dans les différentes villes, comment il va annoncer l'évangile, combien de temps il passe. Alors la plupart des voyages, c'est 1 an et demi à 3 ans. Mais on voit la distance. Et quand c'est sur terre, en général, il marchait. Et quand c'est sur la mer, c'était en bateau, quoi. Mais c'était des trucs très lents et ils n'étaient pas très... On sait que, par exemple, il y a des moments où, si c'était l'hiver et qu'il allait avoir du mauvais temps, ben, il s'arrêtait 3 mois dans un port. Donc c'était à l'époque, ça voyageait quand même plus lentement. Et donc ces voyages, c'est vraiment... on pense que ces 4 voyages, ça couvre environ une quinzaine d'années là aussi. Alors il y a le temps entre les voyages. Il y a des fois, il reste 1 an ou 1 an et demi dans une ville. Mais c'est vraiment... C'est long, quoi. Il passe 15 ans de sa vie à...
Quel âge il avait
quand il... Je pense qu'il avait peut-être la soixantaine. La soixantaine, peut-être, quand il est mort, quoi.
Il a passé une décennie, quoi.
Oui, il a passé... On sait que pour faire partie du Sanhédrin, il fallait avoir un certain âge, déjà. Il ne pouvait pas être très jeune, donc il devait avoir, on pense, peut-être la trentaine. Il était marié, sans doute. Pour faire partie du Sanhédrin, il fallait être marié. Alors, on n'a pas de détails sur sa femme, mais on sait qu'il fallait qu'il soit marié. Et s'il avait 30 ans quand il s'est converti, peut-être après 15 ans à Tarse où il fait rien, puis 15 ans... Puis pour l'époque, bon, bah, c'était pas, il vivait pas non plus à 100 ans.
Limite, quoi.
Puis on sait qu'il a eu une vie quand même difficile quand il voyageait. Il faisait des fois, il travaillait aussi, il faisait des tentes pour gagner de l'argent, pour survivre. Donc c'était un travail physique dur. Et après, on sait que ben il prenait des coups, il était. Donc c'est un personnage vraiment central, hein, un peu le. Il y a, dans le Nouveau Testament, on peut presque dire qu'il y a Jésus et puis Paul. Si on prend la partie dans Actes plus tout ce qu'il a écrit lui, c'est presque un tiers du Nouveau Testament qui est la vie de Paul, quoi. C'est vraiment un personnage clé et qui va répandre l'évangile dans tout le monde moderne, qui va toutes ces villes aussi, tout ce qu'on voit là, toutes ces églises et tout, c'est toutes les églises qui pendant peut-être 400-500 ans vont être les grands centres de la foi chrétienne. C'est là où il y aura les églises, les premiers évêques, l'histoire très vieille, les conciles où ils se sont mis d'accord sur quels sont les livres qui sont la Bible. C'est à Antioche, c'est beaucoup dans la Turquie moderne, enfin ce qu'on appelle la Turquie moderne. Et on sait que par exemple la foi musulmane, elle n'arrive qu'en 600. Donc il y a 600 ans où c'est la foi chrétienne, quoi. Toute cette région, c'est chrétien. Et c'est même Alexandrie en Égypte était un grand centre de culture avec la fameuse bibliothèque d'Alexandrie et alors l'histoire veut qu'il soit mis à mort à Rome après le jugement devant César, mais on voit aussi que la foi à Rome et la suite de l'Église avec le développement de la foi chrétienne, puisque c'est, alors il y a des grandes périodes de persécution sous les différents empereurs qui vont venir après, Néron, les différents gars qui suivent, mais on voit qu'en 400, donc 300 ans plus tard, Rome va accepter la foi chrétienne comme la foi officielle, va en faire, et c'est là le début de l'histoire à Rome avec l'église, la vieille église catholique, etc. Donc c'est vraiment, Paul c'était quelqu'un qui voyait un peu de manière tellement, il comprenait, il était très intelligent et comprenait que pour atteindre le plus de monde possible dans le monde, le mieux c'est d'aller dans la ville la plus importante du monde, à savoir Rome, quoi. Et on voit surtout dans le livre des Romains qu'on va étudier la semaine prochaine, qui a été écrit avant qu'il puisse aller à Rome, qu'il a envie, quoi. Il dit j'ai envie d'aller à Rome, j'ai envie d'aller là-bas pour évangéliser, pour que ça puisse se répandre de partout. On sait qu'à l'époque, tous les chemins mènent à Rome. C'est de cette époque-là où il y a la Pax Romana et qui domine tout le monde. Et donc, si t'arrives à Rome, bah après, t'arrives à atteindre, tu peux aller de partout. Et on sait que l'idée, c'était que peut-être même Paul voulait aller jusqu'en Espagne. Mais bon, il n'a pas eu l'occasion. Dieu a changé le plan, mais le fait qu'il ait atteint Rome, ça va évidemment changer le monde tel qu'il était à l'époque et nous affecte jusqu'à aujourd'hui parce que on vit des suites de cette culture judéo-chrétienne qui a commencé à Rome et qui va former l'Europe, qui va former l'histoire occidentale, etc. Donc je vous disais, ça s'arrête brusquement, ça finit un peu, bon ben Paul est à Rome, il évangélise et puis voilà. Et donc une des leçons qu'on retient, c'est que l'Église continue aujourd'hui et que Dieu continue d'agir par l'Église, que c'est une histoire qui est encore en cours. Et c'est un livre qui est vraiment plein de modèles aussi. Quand on se demande, mais pourquoi est-ce que l'Église fait telle ou telle chose? Pourquoi est-ce qu'on... C'est quoi notre exemple pour l'Église? Ben, l'exemple, c'est le livre des Actes. C'est ce qui s'est passé au début, on essaie de revenir et de dire. Alors après, il y a des choses qui sont ouvertes à discussion, hein, il y a des points. Mais comme je vous disais, par exemple, dans Actes 2, 42, il y a l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. Et on voit que Paul et les apôtres, quand ils voyagent, quand ils commencent les églises, souvent c'était ça, ils allaient dans les maisons, dans les synagogues, ils parlaient de l'Ancien Testament, ils enseignaient, et après on voit qu'il y a des lettres qui vont circuler, qui vont être lues. C'est cet enseignement des apôtres, et c'est ça aussi qui va servir de base à la Bible. Et donc c'est vraiment aussi pour ça que le livre des Actes est important, parce que sinon, on pourrait dire l'Église, on fait... on se tient debout dans un coin pendant un quart d'heure et puis après on chante un chant et puis après c'est bon, c'est ça l'Église. Enfin, c'est, on peut faire, on voit dans les autres religions ou dans les autres sectes dans le monde, d'autres fois, d'autres religions, qu'il y a d'autres plein de choses un peu différentes, quoi. Et donc c'est lire le livre des Actes et vraiment étudier, c'est ça permet de revenir au début. Alors après, il y a aussi quelque chose qui est intéressant et qui est difficile aussi, parce que nous, souvent, il y a des gens dans l'Église, peut-être, qui ne sont pas contents avec une chose, comment ça se passe, peut-être, ils disent que, Pierre, par exemple ici, Pierre est le pasteur, et c'est lui qui décide de tout, et ils vont dire, c'est pas bien, moi, je comprends plutôt que c'était un groupe, c'était démocratique. Tout le monde votait, et puis après, on décidait. Alors après, on voit que quand même, Paul et Pierre, ils sont, c'est un peu, on discutait peut-être, mais à la fin, il y avait quand même un peu quelques autorités, quoi. Encore une fois, c'est un peu ouvert à débat. Mais c'est aussi bon de se rappeler, parce qu'il y a des gens, des fois, souvent des jeunes chrétiens ou des gens qui sont un peu zélés, qui sont un peu chauds. Souvent les gens des idéalistes, souvent ils se disent, on va revenir, on va, par exemple, ils vont prendre la Bible et dire, dans le livre des Actes, au début, dans l'église à Jérusalem, ils vendaient tout ce qu'ils avaient et ils mettaient tout en commun. Ils vivaient en mode, c'était des communistes, ils n'avaient pas le droit. Et alors, en fait, on voit que dans les églises après que Paul a fondé, dans les autres églises qui ne sont pas à Jérusalem, ça ne se passait pas forcément comme ça. Et on voit aussi que il y a plein de problèmes. Souvent, on se dit, l'Église, au début, dans le livre des Actes, elle était parfaite. Puisque Jésus était là, puisque ça venait de commencer, hop, c'était parfait. Donc, si on prend le modèle, on va retrouver l'Église parfaite. Mais en fait, on voit que l'Église est faite d'hommes, et les hommes ne sont pas parfaits, et donc l'Église n'est pas parfaite. Dieu, par l'Esprit-Saint, arrive à agir malgré nous. Mais il y a toujours des problèmes, et quand on lit le livre des Actes, on s'aperçoit que il commence et on voit le troisième chapitre, il y a des problèmes avec il y avait des juifs d'origine grecque, et les juifs, il y avait du racisme. Les juifs qui étaient chrétiens, ils considéraient les juifs des autres régions comme moindres. Et donc ils s'occupaient moins d'eux, donc ils disent déjà il y a un problème. Alors c'est là qu'ils vont ils vont instituer des diacres pour qu'ils s'occupent un peu plus des juifs grecs, etc. Et on voit après qu'il y a une histoire avec un couple qui va mentir. Ils ont vu que c'était bien vu de vendre toutes ses affaires et puis d'amener une grosse offrande. Parce que là, tout le monde dit, waouh, ils sont géniaux, ils sont bons, c'est bien. Et donc eux, ils disent, on va faire pareil, sauf qu'on va garder une partie pour nous, mais on va dire qu'on a tout donné. Et là, on voit que tout de suite, ils étaient là à mentir, à faire semblant, à vouloir sembler bien. Et donc c'est bon aussi de se rappeler que s'il y a des problèmes, nous, à l'Église, que des fois ça va pas, que Pierre est pas parfait, que moi je suis pas parfait, qu'un autre est pas parfait, que des fois on s'entend pas bien, on n'est pas d'accord sur certaines choses, qu'on n'est peut-être pas d'accord avec l'Église, une autre Église à Nice, et d'une certaine manière on peut se détendre. Enfin, on veut bien faire, mais c'est un peu normal aussi, et on doit faire confiance à Dieu et chercher toujours à bien faire, mais c'est normal, c'est comme ça que l'Église marche aussi. Il y a l'idée aussi qui est intéressante quand on lit le livre des Actes et les épîtres, que ce qu'on voit dans cette période du début, c'est des choses que Dieu nous dit peuvent être vraies aussi pour nous, des miracles, des choses. Et moi, j'ai pas fait l'expérience personnellement de choses comme ça, mais on sait qu'il y a, moi, je connais des gens personnellement qui ont été guéris de maladies de manière miraculeuse ou des choses. Et donc, c'est aussi l'idée que ce que Dieu fait dans l'Église du premier, des premiers jours, des premiers siècles, c'est aussi pour nous aujourd'hui, et qu'on peut, on peut prier, demander à Dieu qu'il fasse des choses incroyables. Même quand, quand pour nous ça semble difficile, on doit avoir la foi en Dieu et qu'il n'a pas changé, que Dieu n'a pas changé de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui. Peut-être mon dernier point, c'est un peu moins réjouissant, mais c'est aussi l'idée que parfois de nos jours, dans le monde occidental, on se dit, je sais par exemple aux États-Unis que c'est souvent vrai, que si on est chrétien, si on est gentil, si on est vraiment bon pour Jésus, alors on va avoir une vie tranquille, on va être à peu près riche, on va avoir une vie heureuse, tranquille, machin et tout ça. Et on voit que les apôtres, c'était pas la joie. Ça veut pas dire qu'on est obligé de mourir en martyr pour plaire à Dieu, mais l'idée c'est simplement que pour ces apôtres, leur objectif c'était d'obéir à Dieu. Et qu'après, Dieu, pour certains, il va les appeler à des situations vraiment extrêmes, et pour d'autres, il va les utiliser d'une autre manière, et que Dieu a sa volonté, et sa volonté n'est pas forcément qu'on ait une vie tranquille, paisible, des fois c'est un petit peu difficile à accepter. On sait que, on voit par exemple dans le monde d'aujourd'hui qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés dans des pays où ils sont amenés à être mis en prison ou même être exécutés pour leur foi, et pour nous c'est difficile à comprendre. Mais c'est la vérité de ce que nous dit la Bible, et c'est bon de se le rappeler aussi que il y a même des mouvements aujourd'hui ce qu'on appelle la doctrine de la prospérité, où ils disent si vous n'êtes pas riche et en bonne santé, c'est qu'il y a un problème avec votre foi. Et alors la question qu'on peut leur dire, c'est mais Jésus, il a été mis à mort, Paul, tous les apôtres, qui pourtant, est-ce qu'il y avait un problème avec leur foi? Est-ce qu'ils avaient, alors que c'est les, ils avaient vécu avec Jésus, et en fait, donc on voit que c'est ces gens qui disent qu'il faut être en bonne santé et riche si on a vraiment la foi. Je sais pas comment ils arrivent à lire la Bible et à concilier les deux. Ça me semble assez ridicule. Ça veut pas dire que Dieu ne peut pas nous bénir. Il peut, s'il veut, nous donner la richesse, mais c'est pas systématique. C'est pas, je suis chrétien, donc je suis riche. Il peut, mais il peut aussi faire des choses.
On peut être riche, que par rapport à lui.
Oui, c'est. Il nous dit que Jésus nous dit que votre richesse soit le royaume des cieux.
Exactement.
Pas des choses que les gens peuvent voler, quoi. Vous pouvez perdre. Et on voit, l'exemple souvent, c'est les pharaons, par exemple, qui font des pyramides avec des chambres, avec des richesses et tout, mais tout reste là. Et eux, ils sont partis. Et donc Jésus dit c'est mieux d'avoir des richesses que vous pouvez amener avec vous entre guillemets au ciel que des richesses que voilà le livre des Actes.